Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Dona Madimba à la présentation.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame, formulée à Bruxelles dans un appel à la paix pour l'Est de la RDC, fait réagir diversement la classe politique congolaise. Dans ce journal, nous les écouterons. Et puis aujourd'hui, 10 octobre 2025, le monde, comme chaque année, commémore la Journée mondiale de la santé mentale. Dans ce journal, nous écouterons plusieurs médecins se prononcer sur ce problème de santé et nous parlerons de cette maladie sur de nombreuses facettes. Et puis, une soixantaine de militaires de FRDC ont achevé lundi à Bunia une formation à l'utilisation de l'artillerie lourde, des drones et techniques de communication. Objectif, renforcer leur capacité opérationnelle afin de poser la paix dans la province. Bonsoir à tous, une fois de plus et bienvenue dans ce journal. Une soixantaine de militaires des FRDC ont achevé lundi à Bunia une formation à l'utilisation de l'artillerie lourde, des drones et des techniques de communication. Objectif, renforcer leur capacité opérationnelle afin d'imposer la paix dans la province face aux menaces persistantes des groupes armés. Cette formation a été assurée par les casques bleus de la MONUSCO dans le cadre de leur mandat de protection des civils. Isaac Raymond.
Pendant des semaines, ces militaires des FARDC ont été formés au maniement des mortiers et autres armes d'artillerie, à l'utilisation des drones pour repérer l'ennemi à longue distance, ainsi qu'aux techniques de communication. Ces militaires, venus des différents centres de formation, ont présenté des démonstrations à l'occasion de la cérémonie de clôture. Le gouverneur de province, le général Johnny Luboya, s'est dit satisfait de cette initiative, estimant qu'elle renforcera les capacités de l'armée face à la menace persistante des groupes armés en Ituri.
Nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes de sorte que cette menace que nous avons, vous savez que c'est une grande menace, soit détruite et anéantie.
Pour la MONUSCO, cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire visant à stabiliser la province secouée par les conflits armés depuis 2017. Le commandant des forces de la MONUSCO en Ituri s'exprime.
Cette initiative démontre l'esprit fort de partenariat à notre effort collectif pour apporter une paix et une stabilité durable à la province de l'Ituri et à la RDC.
Par ailleurs, plus de 600 autres militaires ont entamé ce lundi une formation similaire au site de Diango, à une dizaine de kilomètres de Bunia, sous la supervision des instructeurs de la MONUSCO. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kamituga, dans la province du Sud Kivu, le calme de ce matin n'a pas duré longtemps. Des jeunes se sont mis en colère contre les combattants Wazalendo et demandent désormais leur départ de leur territoire. Les détails avec vous, Ronelli Timbonera.
La calmie observée ce vendredi matin a été brusquement interrompue par une manifestation de jeunes. Ces derniers sont descendus dans la rue de Kamituga pour exprimer leur colère. Ils scandaient des chants hostiles aux combattants Wazalendo. Encadrés par le fort de sécurité, ils exigent le départ de Wazalendo de leur milieu. Ces combattants sont accusés de plusieurs faits, dont le vol, le meurtre et autres. Réagissant à cette manifestation, le président du conseil de l'espace Lega, Crispin Pombo, déplore les accrochages devenus récurrents entre le fort de sécurité et leurs alliés Wazalendo.
Nous pensions que la présence de Wazalendo et la présence des FARDC, ils avaient qu'une seule cause. Mais en profondeur, on finit par comprendre qu'ils ont des visions différentes. Et cette situation nous inquiète. Nous demandons à leur chef que nous ne voulons pas que l'espace Lega reste un théâtre de désordre, un théâtre de pillage, un théâtre où les gens meurent. Chaque Mozalendo doit faire l'équivalent de chez lui, dans son village. Vous avez votre champ, vous avez un tapiscole où vous cultivez pour chercher à manger.
Pour rappel, le 18 septembre dernier, des accrochages similaires entre les deux forces à Mwenga Centre avaient coûté la vie à 8 personnes.
Dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, un militaire a été blessé et plusieurs biens de la population ont été pillés lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés contre les positions des FRDC à Mango-Domu, 30 km à l'ouest de Beni. Les autorités locales appellent la population au calme et annoncent l'ouverture d'une enquête. Marc Marofimbo.
Selon des sources locales, l'attaque contre le camp militaire de Mango-Domu s'est produite jeudi soir aux environs de 22h lorsqu'un groupe d'hommes armés, des fusils et d'armes blanches a tenté de s'emparer d'armes et munitions des FRDC. Ces derniers ont riposté avec vigueur et réussi à repousser les assaillants qui se sont repliés vers la forêt au nord-est de Mangina. Durant leur fuite, les assaillants ont abandonné plusieurs armes et effets militaires. Le commandant de l'unité de Mango-Domu a été légèrement blessé et reçoit actuellement des soins dans une structure sanitaire de la région. La panique provoquée par les tirs a poussé une partie de la population à fuir. Pendant la nuit, certains se dirigeaient vers Kiansapa, d'autres vers Mabalako. Ce vendredi matin, la psychose régnait encore dans la commune et les activités socio-économiques tournaient au ralenti. Les forces de sécurité poursuivent les opérations de ratissage dans la zone. Les autorités communales condamnent fermement cette attaque et appellent la population à collaborer avec les forces de sécurité. C'est la deuxième attaque contre ces camps par des hommes armés non identifiés après celle de l'année dernière par les rebelles des ADF, attaque qui avait fait 11 morts civiles et causé d'importants dégâts matériels. Beni, Marc Maro Fimbo, Radio Kapi.
Roger Lumbala, ancien ministre de la RDC, ancien député et aussi ancien sénateur du pays, comparaîtra devant la cour d'assises de Paris dans 2 jours. Il est poursuivi par la justice française pour des faits présumés de complicité de crimes contre l'humanité. Les actes allégués remontent aux années 2002-2003 dans la province de l'Ituri à travers l'opération dite « Effacer le tableau ». La justice française se fonde sur le principe de compétence universelle pour le juger, principe battu en brèche par l'avocat de Roger Lumbala. Il dénonce ce qu'il qualifie d'abus et le silence des autorités françaises à plusieurs demandes d'extradition formulées par la justice congolaise pour juger son ressortissant Philippe Zeller et joint par Jeff Ngoy.
Ce silence interpelle autant qu'il inquiète. Sur le plan juridique, on risque d'aboutir à un abus manifeste de l'exercice de la compétence universelle et à une remise en cause du principe de subsidiarité, dans la mesure où, à nouveau, la République démocratique du Congo a formé une demande d'extradition visant M. Lumbala. Sur le plan politique, le silence des autorités françaises conduit à remettre en cause la souveraineté judiciaire pourtant affirmée de la République démocratique du Congo. Sur le plan des droits de la défense, comment ne pas s'interroger sur l'équité des armes, dans la mesure où M. Lumbala est renvoyé à l'issue d'une instruction, disons-le, hors sol, à 8000 km du théâtre des événements, sans qu'aucun enquêteur n'ait été dépêché en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, on ne peut qu'instamment appeler les autorités à reconnaître la compétence de la République démocratique du Congo pour juger son ressortissant, M. Roger Lumbala, à répondre officiellement aux demandes d'extradition formées par les autorités congolaises, et en définitive, à mettre un terme à cette procédure qui n'a pas lieu d'être.
La main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame formulée à Bruxelles dans un appel à la paix pour l'Est de la RDC fait réagir diversement la classe politique de la RDC. Suivons le condensé de ses réactions avec vous, Grace Amzati.
Pour l'opposant Claudel André Loubaya, cette démarche révèle selon lui un manque de cap. Sur les réseaux sociaux, il écrit « Loin d'être une preuve d'adaptabilité stratégique, la versatilité de Tshisekedi met en lumière l'absence de cap et de vision claire. » Dans la même veine, il qualifie certains retournements ridicules, estimant que la cohérence fait défaut. Le député Olivier Kamitatou critique pour sa part le caractère formel du discours présidentiel. Il parle de paix des braves, il répète « jetant la main », des mots vides récités comme une prière sans foi, dit-il, ajoutant que la priorité devait être donnée à un dialogue inclusif au sein du pays, comme le proposent la CENCO et l'ECC. La coalition Lamouka partage ses réserves, son porte-parole. Prince Epengue s'interroge « comment expliquer que Félix Tshisekedi propose la paix des braves à celui qu'il qualifiait hier de pyromane, Paul Kagame, alors qu'avec ses compatriotes, c'est la confrontation. Lamouka en appelle à un retour rapide du chef de l'État afin d'engager un dialogue national et de privilégier une conciliation entre Congolais. En face, le camp présidentiel défend l'initiative et insiste sur la cohérence de l'option pacifique. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, affirme que le président de la République est un homme de paix et il est resté cohérent depuis 2019, rappelant l'orientation diplomatique choisie par le chef de l'État. La porte-parole présidentielle Tina Salama souligne que ce discours place le Rwanda devant un choix moral et politique, soit poursuivre la logique d'agression, soit accepter la main tendue pour la désescalade. Le débat se poursuit au sein de l'opinion publique et des acteurs politiques alors que l'appel à la paix demeure au centre des préoccupations nationales.
La journée mondiale de la santé mentale, c'est aujourd'hui 10 octobre. Les malades mentaux de la province du Kasaï central, particulièrement à Kananga, sont abandonnés à leur triste sort. Constat de la Ligue pour la promotion de la santé mentale, l'IPROSAM en sigle. Cette dernière dresse un tableau de leur prise en charge. Pour cela, il lance un appel aux autorités tant provinciales que nationales pour qu'elles leur viennent en aide. On écoute Marc Kamandé, président provincial de la LIPROSAM Kasaï Central, au micro de André Kandi.
Les malades mentaux sont abandonnés en divagation à leur triste sort. Les soins coûtent exorbitamment cher dans la province. Il y a manque de structures étatiques opérationnelles de prise en charge des malades mentaux. Il y a discrimination des malades et ex-malades mentaux dans la société. Manque de pharmacies spécialisées pour la santé mentale en province. La post-cure pour les ex-malades mentaux est un casse-tête pour cette catégorie défavorisée. Il y a manque de médecins spécialistes en santé mentale pour les centres de la province. La non-réhabilitation des structures de prise en charge comme Katoambi, qui est actuellement annexée au service national, aucun service ne s'est fait là-bas. La non-réglementation de la vente des psychotropes dans la province. Quand vous allez par exemple ailleurs, on ne peut pas vous vendre un produit de santé mentale, ça quand vous n'avez pas l'ordonnance. Mais ici chez nous, dans n'importe quelle pharmacie, on vous vend ça, l'absence d'une loi spécifique pour les patients et ex-patients psychiatriques.
Dans la province du Maniema, après le territoire de Pangui, la mission mixte gouvernementale provinciale, assemblée provinciale, les confessions religieuses ainsi que les organisations de la société civile a sillonné le tronçon Kailo-Muyenge, 36 km, avec seulement les bêches ou machettes. Plusieurs routes du Maniema sont réhabilitées et les véhicules et motos roulent à une vitesse supérieure. Non seulement que ça permet de faciliter le passage des motos, vélos, véhicules et les piétons aussi, ça crée le travail aux communautés. Florence Kiza nous donne les détails.
Après avoir parcouru 255 kilomètres sur les 340 entendus, les gouverneurs aussi dissatisfaits du travail fait. Moussa Kabwankubi.
Nous sommes contents. Au début, on avait un peu de doutes, mais nous pensons que l'OPERMA est en train de faire un bon travail. Et là, nous venons de faire une grande annonce, qui est, en tout cas, l'année prochaine, nous allons voir des véhicules quitter Kisangani, passer par Ambwe, Kailo, jusqu'à Kindu.
Le président de l'Assemblée provinciale, témoin de l'événement, félicite l'initiative du gouverneur et encourage le Maniémien à payer la taxe conventionnelle. Kibungi Mutanga Junior.
Nul ne croyait qu'avec bêche, machette ou on pouvait arriver à réhabiliter des routes de bon état. Aujourd'hui, nous venons de palper du doigt et nous encourageons le gouverneur des provinces à continuer dans cet élan parce que sa vision est que nous puissions nous désenclaver.
Le responsable de l'Office provincial pour l'entreprise routier sollicite toujours l'accompagnement des communautés. Ingénieur Bertin Kalunga.
Demandons à la population de s'approprier de cette initiative, de ces produits, parce qu'ils sont les bénéficiaires, un, de la route et de l'argent aussi pour la survie de leurs besoins.
Des retours de Kailo, Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Du foot pour terminer, et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la RDC se sont relancés dans la course après leur victoire aujourd'hui vendredi face aux Éperviers du Togo. Ils se sont imposés à Lomé sur le score de 1-0, une réalisation de Cédric Bakambu. Dans les 10 premières minutes de la rencontre, les fauves congolais ont désormais 19 points, juste derrière les Lions de la Teranga du Sénégal qui en compte 21. Le dimanche prochain, ils se produiront à Kinshasa face au Soudan pour la dernière journée. À défaut de se qualifier directement, la République démocratique du Congo pourrait être éligible au barrage en étant parmi les quatre meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires.
Actualité internationale.
Dans deux jours, les 29 pays européens de l'espace Schengen mettent en place leur nouveau système automatique de contrôle des entrées et des sorties. Les collectionneurs de tampons dans leur passeport vont devoir s'en passer car ceux-ci sont appelés à disparaître. L'Europe veut renforcer les contrôles car le nouveau système d'entrée et de sortie a pour vocation d'améliorer la sécurité, de combattre les enlèvements d'enfants, la fraude à l'identité, le terrorisme et le crime organisé, mais aussi de garantir que les voyageurs respectent la règle de 90 jours pour les courts séjours et ne dépassent pas la durée autorisée dans l'espace Schengen.
L'invité.
La guerre à l'est de la République démocratique du Congo affecte sérieusement la santé mentale des populations. C'est l'avis du psychiatre clinicien de l'organisation TPO dans la province du Sud Kivu, Donatien Bachagalouke, focalise sur l'analyse sur l'impact psychique des conflits armés et il propose quelques pistes de solutions. On l'écoute dans cet entretien.
Docteur Gédéon Samba, bonjour.
Bonjour Madame Babin.
Quelle est aujourd'hui la situation de la santé mentale en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il existe des chiffres?
Les statistiques que nous détenons datent un peu de longtemps. 25% des Congolais présentent des problèmes de santé mentale. En termes environ 20 millions, à ce moment on avait une population de près de 100 millions. C'était en 2012, mais avec l'évolution des choses, avec beaucoup de facteurs qui se sont dégénérés au pays. Il y a les crises, les niveaux socio-économiques. Les estimations d'aujourd'hui peuvent être au-delà. Mais dans mes 2-3 ans ici à la tête du programme, on a intégré 2 indicateurs de santé mentale dans une enquête qui sera publiée d'ici 2 mois par l'École de santé publique et l'Institut national de santé publique. Mais selon les premières tendances, on est au-delà de 50%, donc c'est plus de la moitié des cas de dépression modérée et sévère. On est un peu au-delà.
Le thème national pour cette année, c'est promouvoir la santé mentale et le soutien psychosocial pour une paix durable en République démocratique du Congo. Comment vous pouvez expliquer ce thème?
Actuellement, si nous voulons une paix durable dans notre pays, dans le continent, nous devons promouvoir la santé mentale et soutien psychosocial. C'est une condition préalable à la paix. Ces thèmes-là, en français facile, il s'agit de soigner les esprits pour cultiver la paix. C'est-à-dire la santé mentale occupe actuellement dans le monde une place de choix dans tout programme de paix. Je peux donner l'exemple des communautés affectées, des zones sous la guerre, les zones dans l'insécurité. Dans quelle étape psychologique et mentale se trouvent ces populations victimes? Et si nous, les acteurs de santé mentale, on arrive à offrir les soins de santé mentale et psychosociaux à ces victimes-là, avec tout ce qu'ils ont comme blessures, traumatismes psychologiques, ils vont naître des sentiments de vengeance et demain, ils risquent de créer encore d'autres groupes armés et le cycle va continuer. Donc, il faudra s'occuper de les détraumatiser, les soigner. Mais aussi, il y a un aspect, nous sommes des êtres humains. Pour nous, l'homme doit avoir l'humanisme, penser à l'autre, aimer l'autre, croire que l'autre est comme lui, c'est son semblable. Mais lorsqu'on perd l'humanisme pour faire du mal à l'autre ou générer des conflits, c'est un problème de santé mentale. Donc, il faut placer la santé mentale au cœur de l'action de pacification du pays.
Oui, docteur, il faut placer la santé mentale au cœur de la pacification du pays. Mais apparemment, il y a quand même un grand écart entre le nombre de personnes qui présentent des problèmes liés à la santé mentale avec tout ce que vous avez évoqué comme contexte et l'offre disponible en matière de prise en charge.
Le besoin est grand. On a un nombre élevé de personnes avec des problèmes de santé mentale. Mais l'offre de soins est faible, autour de 3%. Nous, secteur santé, comme dans les années passées, la santé mentale n'était pas mise comme priorité. Nous avons laissé ce grand travail-là aux pasteurs, aux églises, aux praticiens. C'est eux qui font ce travail à notre place. Mais maintenant, sous le leadership de son Excellence le ministre Roger Kamba, la RDC, après 20 ans d'absence, vient d'élaborer un plan stratégique multisectoriel de santé mentale. Parce que pour nous, la santé mentale doit être intégrée dans tous les secteurs de la vie nationale pour sauver ce pays, pour développer le pays. On s'organise pour renforcer les ressources humaines en santé mentale, les équipements et puis intégrer le paquet de soins de santé mentale et psychosociaux dans le soin de santé primaire. On va décentraliser à partir des communautés, les centres de santé, les hôpitaux généraux, ce qui va aller aux hôpitaux psychiatriques seulement les cas les plus graves. On doit former tous les médecins, les infirmiers dans le soin de santé mentale parce qu'ils passent à côté. Une dépression peut être soignée comme malaria. Donc nous sommes en train de préparer des plans de formation. Et puis d'ici là, il y a un projet d'arrêté que nous avons transmis. Ça va arriver bientôt à la table du ministre, qui reconnaît l'importance des psychologues et cliniciens comme prestataires de soins.
Docteur Gédéon Samba, directeur du programme national de la santé mentale, merci d'avoir répondu à nos questions.
Fin de ce journal. Merci à Lievin Mbuinga, Jean Gandou et Dieudonné Nyangasa pour leur soutien éditorial. Merci pour votre écoute. Bonne soirée à tous.